Bonjour à tous. Alors, je vais aujourd'hui vous apporter une prédication que j'ai appelée le fil à plomb. Le fil à plomb de Dieu. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, ce titre. C'est par rapport à un livre qu'un frère m'a conseillé de lire. Et ce livre s'appelle « Les murs de notre cœur ». Et le sous-titre, c'est « Le fil à plomb de Dieu ». Ce livre m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup encouragé. Et donc, j'en ai fait une prédication. Hein, donc, j'ai vraiment réduit le livre. On a parlé tout à l'heure, quelqu'un a prié et a parlé de l'ouragan qu'il y a eu dans ces îles. Et c'est vrai que quand on voit des événements de ce genre, on peut se dire d'un côté que l'homme n'est pas grand-chose. Et pourtant, aux yeux de Dieu, l'homme a beaucoup de valeur. Donc on pourrait dire qu'il n'y a pas grand-chose parce qu'un ouragan qui balaye des villes, tout ça, ça montre la faiblesse de l'homme, la petitesse devant un événement comme ça et son incapacité à faire quelque chose. Et pourtant, la Bible nous affirme que Dieu aime tous les hommes, qu'on a de la valeur à ses yeux. On peut aussi parfois, dans nos vies, être chrétien, avancer avec le Seigneur, connaître la Bible, avoir ses promesses et tout, et avoir des moments comme ça, et ben, où nos convictions, tout ça, peuvent être un peu balayées par des événements qui arrivent. On peut commencer à douter un peu des promesses de Dieu, de sa bonté, et des choses comme ça. Et le fil à plomb de Dieu, justement, est peut-être une manière de nous recentrer sur le principal. J'aimerais vous inviter à lire dans le livre de la Genèse, où chapitre 3 lira les versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Cependant, ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez point, absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons, agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Alors on connaît bien ce texte, je pense. Et voyez, ici on voit le malin qui va, je dirais, remplir habilement les oreilles d'Adam et de Ève de mensonges et de fausses promesses. Et dans le but de les séparer de leur créateur, de les faire marcher dans la désobéissance, avec toutes les conséquences hein, que nous connaissons. Le mal va toucher toute la création. Mais il y aura aussi des conséquences qui, je ne développerai pas là, mais qui sont quand même intéressantes à l'écouter. Les conséquences, ça va être la peur qu'il va avoir. La peur entre eux, la peur de Dieu, mais aussi la honte d'avoir commis cette faute, où ils vont se cacher, et ce sentiment de culpabilité qui va les habiter. Et c'est très intéressant de lire ce que des psychologues, philosophes disent aujourd'hui sur la nature de l'homme et tout, et que ça, la peur, la honte, la culpabilité, ce sont des livres, ce sont des choses qu'on retrouve dans le cœur de l'homme, et que les psychologues, les philosophes, tout ça, constatent, même s'ils sont bien sûr athées. Et le diable avec son chant de sirène, tout ça, ses belles fausses promesses, ses mensonges, va faire entrer le mal dans le cœur de l'homme. Et ce mal va toucher l'homme dans son être entier. Et pour ça, il a utilisé deux flèches empoisonnées. La première, c'est le doute sur la parole de Dieu. Je pense que quand vous témoignez de votre foi à quelqu'un, bien souvent, qu'est-ce qu'on vient vous dire ? si Dieu est bon, pourquoi il permet la souffrance, pourquoi il a permis la guerre, pourquoi il a permis... Et on met vraiment le doute sur, non pas sa parole, mais sur sa bonté. Et le doute est vraiment écrit dans le cœur de l'homme. Et là, c'est Dieu a-t-il réellement dit ? Hein, c'est pas une discussion, c'est pas Dieu l'a réellement dit. Non, c'est Dieu a-t-il réellement dit ? Peut-être dit d'un air scandalisé. Comment ça ? C'est pas possible que Dieu vous a dit ça et qu'il est en train de vous priver du meilleur. Et ça, ça aura pour conséquence dans le cœur de l'homme l'incrédulité. Dieu a-t-il réellement dit ? Et la deuxième flèche est la fausse promesse d'être comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Et ça, ça aura pour conséquence dans le cœur de l'homme l'orgueil. Et Dieu, c'est nous. Et c'est conséquent, vous savez, si vous lisez, enfin, quand vous lisez l'histoire du peuple d'Israël dans l'Écriture, on retrouve ça. Le côté incrédulité qui fait, oh Dieu, finalement, l'Éternel, ses promesses, tout ça, hein, Moïse est parti, hop, des mots d'or, et on laisse tomber, et combien de fois le peuple va se détourner de Dieu pour aller vers des idoles et tout. Mais on verra aussi l'orgueil de ce peuple, finalement, j'ai envie de dire, pensera pouvoir marcher sans Dieu. Dans le livre d'Amos, au chapitre 7, il est dit, Amos reçoit une vision et il dit, « Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans sa main. L'Éternel me dit, « Que vois-tu, Amos ?» Je répondis, « Un niveau. » Et le Seigneur dit, « Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je lui pardonnerai plus. » Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Donc le niveau, vous savez tout ce que c'est, quand on construit un mur, on met le niveau dessus pour voir si le mur est droit, ou si on parle du fil à plomb, on le met le long du mur pour voir si parfois à gauche ou si parfois à droite. Entre parenthèses, je me suis dit que quand le prophète a reçu une telle parole et qu'il a fallu la dire au peuple, ça ne devait pas être évident, hein. Surtout qu'Abo, je crois, qui était un cultivateur du peuple très simple, et s'adresser au peuple en disant une telle prophétie, ça ne devait pas être facile. Et du temps d'Amos, c'est quoi le niveau de Dieu ? C'est la loi. La loi à laquelle le peuple devait obéir. Un peuple qui devait adorer l'Éternel, qui devait le craindre, qui devait le marcher dans l'obéissance, et qui devait être une lumière pour les nations. Là, aujourd'hui, on sait bien que le peuple de Dieu, c'est nous, et l'Église. Nous sommes l'Église qui s'est acquis ou pris du sacrifice de son Fils sur la croix, mort et ressuscité. Nous sommes saints parce que nous sommes mis à part pour Dieu. Nous avons été rachetés par lui. Et nous sommes la lumière pour les nations. Je vous rappelle que si nous sommes saints, déclarés saints, nous sommes appelés à marcher dans cette sainteté. Et d'après l'Épître aux Hébreux, personne ne verra le Seigneur sans la sanctification. Je pense que pour nous, en tant que chrétiens, l'obéissance et surtout la confiance dans la parole de Dieu sont vraiment primordiales si on veut rester fidèle et grandir dans notre foi, si on veut vraiment porter des fruits. Si on veut que le Seigneur nous utilise pour l'avancement de son royaume, la foi dans sa parole et dans sa personne sont vraiment importantes. Si on commence à douter un peu de la Bible, de ses promesses, si on commence à négliger sa lecture, si on pense être assez fort pour s'en passer, alors nous commençons à être vraiment en danger. Il y a eu un sondage de fait, alors c'était auprès de pasteurs, et on a demandé aux pasteurs combien de temps passez-vous chaque jour à lire la Bible pour vous personnellement. Et la moyenne c'était 3 minutes. Ça paraît pas beaucoup, hein. Je ne sais pas combien de temps vous arrivez à passer à lire la Bible. Je ne dis pas qu'il faut passer tous les jours 2 heures à lire la parole de Dieu. les jeunes que je suis, je leur dis déjà l'important c'est d'être régulier dans sa lecture. Mais 3 minutes par jour, ça fait peu. Vous savez, le diable a utilisé en Éden cette flèche de l'incrédulité, cette de l'orgueil, mais c'est des flèches qu'il utilise encore aujourd'hui. Que ça soit l'incrédulité ou l'orgueil qui domine dans nos cœurs, forcément, ça va avoir des répercussions dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, notre comportement, notre relation avec les autres. Le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» donc, l'incrédulité. Et là, d'après l'auteur du livre là, que j'ai lu, il disait que ça peut se manifester par de la tristesse, de la pitié de soi, de l'insécurité, un sentiment peut-être d'infériorité, l'échec, la culpabilité, la faiblesse, le découragement, le désespoir. Et au contraire, l'orgueil, le fameux « vous serez comme des dieux », ben ça peut se manifester parfois par de l'agressivité, de la vanité, la compétition, sentiment de supériorité, esprit critique, le contrôle. Alors quelqu'un qui est du côté incrédulité, il va devenir ou complaisant ou défaitiste. Il ne va pas donner son avis sur un sujet, il va suivre sans dire ce qu'il pense. Ah, il va toujours se ranger à l'avis des autres dans le but peut-être de plaire, de ne pas se sentir rejeté, de recevoir peut-être un peu d'amour. Et le défaitiste ne va pas se sentir forcément aimé. Il pense peut-être même être un cas désespéré et peut même avoir vraiment un fort sentiment de honte. C'est sûr que dans les deux cas, ce n'est pas vraiment les fruits de l'esprit qui nous parlent de paix, de joie et d'amour. Un chrétien qui est plutôt orgueil peut devenir un chrétien compétition critique. Et la compétition, ça peut être le désir de toujours être aimé. Alors je vais toujours chercher la performance pour me faire un peu voir des autres. Pour montrer que je suis là. Et dans le fond, ça ne part pas spécialement d'un mauvais sentiment. Mais le chrétien critique, lui, va plutôt dire... ceux qui ne sont pas à la hauteur de ses propres exigences ne sont peut-être pas dignes d'être aimés. Alors la question à se poser, c'est peut-être de savoir pourquoi on est parfois dans l'incrédulité, pourquoi on est parfois dans l'orgueil. Peut-être à cause de fondements sur lesquels notre vie doit être construite et qu'on a parfois tendance à oublier. D'après l'auteur du livre, on est soit dans l'incrédulité, soit dans l'orgueil, mais jamais à 100%. On va être plutôt 70% tendance à incrédulité, puis 30% orgueil, suivant les situations, les contextes, tout ça. Et il y a 3 fondements qu'on ne devrait pas oublier. Et le premier fondement, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qu'il a manifesté à la croix. On prend la scène régulièrement, on parle régulièrement de la croix, et parfois, je m'excuse de le dire comme ça, on finit par banaliser ce qui s'est passé sur la croix. Tellement qu'on en parle ou qu'on en dit, on finit des fois par le banaliser. Et personnellement, je veille à ça, parce que je suis évangéliste, à chaque fois que je donne un message d'évangélisation, je reparle de la croix et tout. Mais vraiment, je prends toujours du temps avant de prier, pour pas annoncer ça comme une sorte de méthode, ben voilà, le moyen pour être sauvé, c'est ça. Mais à dire, mais Jean-Pierre, rappelle-toi bien qu'est-ce qui s'est passé à la croix, et que s'il n'y avait pas eu la croix, ben, tu serais vraiment perdu. Et il est décrit dans l'Épître aux Romains, « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je crois que la parabole du Père et des deux fils, en Luc 15, nous parle de cet amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Notez qu'à chaque fois, c'est le Père qui va aller vers les enfants pour les faire entrer dans la salle des fêtes. Rappelons-nous le pardon que Dieu nous offre à chaque fois qu'on se repent et qu'on vient vers lui. On n'est jamais rejeté. On s'approche du trône de la grâce où est assis dessus un Père bienveillant. Le deuxième fondement, c'est la confiance en Dieu seul. Le journal dans nos églises s'appelle Christ seul. On devrait vraiment avoir une confiance en Dieu seul. La Bible est pleine de promesses, mais sa méconnaissance nous amène parfois à douter ou à placer soit notre confiance en nous, soit dans l'homme, soit dans les idoles de ce monde. Et parfois, donc, il y a la confiance. Oui, j'ai confiance en Dieu pour mon salut et tout. Pour bien d'autres choses dans la vie, alors on va placer parfois sa confiance ailleurs. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe : Assemblez-vous et venez approcher ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leurs idoles de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Je vous rappelle que la plus grande des idoles que Jésus lui-même a dénoncée et a personnifiée, c'est le Dieu de l'argent que nous appelons Mammon. Et Jésus lui-même dira que nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Et le troisième fondement est quelque chose que, alors, je l'ai personnellement travaillé ce fondement pour ma propre vie, suite à certains événements, mais je l'ai aussi particulièrement travaillé par rapport au livre que j'ai écrit et à celui que je veux encore écrire. C'est vraiment quelque chose de fort pour moi, que quand j'ai compris ça, ça m'a... Il y a eu comme une sorte de libération et comme une assurance vraiment plus profonde de ma valeur aux yeux de Dieu. J'aimerais que vous puissiez y réfléchir aussi. Mais le troisième fondement, c'est que notre identité est fondée en Christ. Nous sommes des enfants de Dieu et personne ne peut nous l'enlever. Parfois je dis à des gens, en France, peut-être maintenant je ne sais pas, mais avant c'était surtout l'identité, on disait voilà, c'est Christian, il est vétérinaire, c'est Christian, il est webmaster, voilà, c'est Jean-Loup, il est ingénieur, c'est... Vous voyez, on identifiait les gens par rapport à leur statut social. Ah, mais quand Christian vétérinaire sera à la retraite, donc son identité ne sera plus le vétérinaire, ça sera le retraité. Et si Jean-Loup vient se retrouver au chômage, ça ne sera plus l'ingénieur, ça sera le chômeur. Vous voyez, l'identité sociale peut changer avec le cours de la vie, avec le large, tout simplement. Oui, très bien, j'ai entendu personnellement l'histoire de gens vivant dans la rue, j'ai entendu quand même trois histoires différentes, de gens qui avaient tous un travail, qui étaient mariés, qui avaient des enfants, et pour des raisons X et Y, se sont retrouvés à la rue. Et je les voyais tous les samedis quand je faisais le marché à Lunéville. Enfin, deux que je voyais là tout le temps, qui étaient tombés dans l'alcool, tout ça, ok. Mais les gens, il y en a été sous deux, l'autre était menuisier, c'était marié, avec des enfants, et puis voilà, ils ont des problèmes familiaux et tout, et puis paf, ils sont dégringolés. Et là, ouais, je me suis dit, bon, ça m'a touché, parce que moi, j'étais soudeur, alors l'autre, il était, donc là, faisait un petit lien, mais dire, mais voilà, voilà, il avait une situation normale, et tout d'un coup, pof, il se retrouve comme ça à la rue, et là, ça me dit, mais finalement, ça pourrait être moi, quoi. Vous savez que le chrétien est le seul qui peut répondre à cette question existentielle, qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. Que je sois ingénieur, ouvrier, commerçant, chômeur ou dans la rue, quand je suis un enfant de Dieu, personne ne peut me l'enlever. Je suis aimé par Dieu, racheté par son sang, et j'ai une grande valeur à ses yeux. Et donc mon identité et ma valeur ne vont pas dépendre du regard des autres sur ma vie, mais uniquement du regard de Dieu sur moi. Et ce que les autres pensent de moi ne va pas influencer ça, ne pourra pas changer ça. Je reste un enfant de Dieu. Et quand j'ai vraiment cette identité bien fondée, que c'est une chose que j'avais travaillée, comprise et tout, Ben, je vais dire, alors que ça soit bien compris, que vous soyez aimé ou pas par les autres, ça ne va plus vraiment vous toucher. Hein, bon, si personne ne vous aime, vous pouvez vous poser la question. Mais vous comprenez ? Ma valeur ne va pas être est-ce que je suis bien vu ? Est-ce que je suis quelqu'un ? Est-ce que j'ai de la valeur pour les autres ? Est-ce que je dois faire quelque chose pour la prouver ? Non, c'est terminé. Ma valeur, elle est en Dieu seul. Je suis son enfant et il m'a racheté. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, « Vous, au contraire, donc, il parle à l'Église, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'y étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Plus vous connaîtrez votre identité en Christ, plus vous marcherez dans la liberté des enfants de Dieu. Hein ? Et le fil à plomb de Dieu, n'oubliez pas, c'est l'amour inconditionnel que Dieu a pour vous. Je voudrais conclure en disant, le péché d'incrédulité et d'orgueil se niche facilement dans nos cœurs. Il faut le reconnaître. Et nous avons sans cesse besoin de revenir à Christ pour être à nouveau pardonné et à nouveau libéré. Et j'aime à rappeler qu'il est dit dans l'Écriture, l'Éternel est ce Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je crois qu'on a toujours besoin de réapprendre à vivre dans l'intimité avec notre Dieu. L'Évangile de Jean, quand on voit la relation entre le disciple bien-aimé et Jésus, voilà l'intimité à laquelle on est appelé à vivre. Et qu'on sent le péché d'incrédulité et d'orgueil se manifester en nous, on doit vraiment s'en repentir et ne pas avoir de crainte de nous approcher de Dieu car il connaît la faiblesse de notre chair. Et je le rappelle encore une fois, le fil à plomb de Dieu, c'est son amour inconditionnel. Je voudrais vous lire un passage dans le livre, je vous ai déjà parlé, la liberté intérieure. J'aimerais vous lire ce que Jacques-Philippe dit. Je pense que l'une des paroles les plus fondamentales de l'Évangile est cette parole de Jésus. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. L'amour de Dieu est absolument gratuit. Il n'y a pas à le mériter, il n'y a pas à le conquérir. Il n'y a qu'à l'accueillir au moyen de la foi, qui est la seule voie d'accès au salut, selon saint Paul. Car elle est la disposition intérieure par laquelle Dieu accueille cet amour gratuit en lui, faisant une pleine confiance. Cet amour accueilli gratuitement nous invite à aimer gratuitement en retour. De plus, il nous en confère progressivement la possibilité, en renouvelant notre cœur par la grâce du Saint-Esprit, qui nous inspire les œuvres de l'amour et nous donne la force nécessaire pour les accomplir. Amen. Je vous invite encore à un moment de prière. Voilà, Seigneur, je veux encore te remercier pour ta parole, qui est notre nourriture, qui est notre guide, qui nous révèle pleinement qui tu es. Je te remercie aussi, Seigneur, que sur la croix, tu nous as rachetés, ton sang a coulé pour nous purifier de nos péchés. Merci encore d'avoir fait de nous tes enfants, d'avoir fait de nous ton Église. Merci aussi pour toutes les promesses qu'il y a dans ta parole, auxquelles on peut s'attacher. Et merci aussi parce que ta parole nous dit qu'un jour tu reviendras chercher ton Église et que nous vivrons éternellement avec toi dans ce ciel de gloire. Merci encore de l'amour que tu as pour chacun de nous, de la valeur que nous avons à tes yeux, Seigneur. Je te prie encore de bénir mes frères et sœurs de Darnay, de vraiment les renouveler dans leur foi, de leur donner la persévérance pour te rester fidèle au Seigneur. Amen.